efficacement vos projets en toutes circonstances grâce à une épargne sécurisée Suno Assurance qui vous propose Priorité Santé. Suno Assurance, notre métier, l'assurance.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission de Priorité Santé enregistrée en public ici au Bénin, l'Institut français de Cotonou. Merci à vous d'avoir répondu à l'invitation de RFI. Le 8 mars, la Journée internationale des femmes, célébrée dans le monde pour la promotion des droits de la moitié du genre humain. Parmi ces droits essentiels, il y a celui de vivre en bonne santé. Aujourd'hui, après le VIH-Sida, ce sont les complications de la grossesse et de l'accouchement qui constituent la deuxième cause de mortalité chez les femmes en âge de procréer. 287 000 décès maternels, pour l'essentiel, enregistrés dans les pays en développement. Et derrière cette véritable hécatombe, eh bien, il y a une réalité, c'est l'accès limité, dans certains pays du monde, aux méthodes modernes de contraception. D'après l'Organisation mondiale de la santé en Afrique subsaharienne, une femme sur quatre n'a recours à aucun de ces moyens, pilules, stérilets, préservatifs, implants, malgré son souhait d'espacer les naissances ou de ne plus avoir de bébé. Et pour la région ouest-africaine, le Bénin fait figure de dernier du classement. Si l'on compare, la prévalence contraceptive est 2,5 fois plus élevée au Burkina Faso. Alors pendant notre émission, on va essayer de comprendre pourquoi et Priorité Santé vous donne la parole pour savoir quelle est selon vous la contraception idéale, pour connaître votre opinion sur la limitation des naissances, pour savoir ce qui entrave ou limite l'accès aux différentes méthodes anticonceptionnelles. On en parle avec nos invités, avec vous, dans le public, ici à Cotonou. L'accès à la contraception, une émission enregistrée à l'Institut français de Cotonou avec le concours du Fonds français Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Et pour commencer, notre tour de table pour présenter nos invités, professeur Christiane Chabou-Aguémon, bonjour. Vous êtes chef de service adjointe de la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga de Cotonou. Docteur Aounou, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin de santé publique, chef du service planification familiale et santé des adolescents et jeunes au ministère de la Santé. Avec nous aussi, Romaric Witona, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes jeune ambassadeur pour la santé reproductive et la planification familiale à Cotonou. Et dernière invitée, on ne la présente plus ici, c'est Cécimé. Bonjour Cécimé.
Bonjour Caroline.
Vous êtes artiste, chanteuse, femme engagée pour la planification familiale au sein de l'organisation Equipop. On va commencer en vous donnant la parole, professeur Christiane Chabou-Aguémon, pour bien comprendre dans quelle mesure la contraception est un élément fondamental pour la santé des femmes. Comment expliquer concrètement à celles et aussi à ceux qui nous écoutent qu'espacer les naissances a un impact direct sur la mortalité maternelle et les maladies, également sur les troubles gynécologiques? Quand on prend une contraception, on est en meilleure santé. Pourquoi?
Ce qu'il faut savoir, la contraception permet à la femme de retrouver sa santé plus ou moins déséquilibrée lors de la grossesse. Et ça permet aussi à la femme d'assurer l'éducation et la nutrition du nouveau-né. Une fois que la femme a accouché, elle doit allaiter son nouveau-né. Et en même temps qu'elle est en train d'allaiter son nouveau-né, elle doit retrouver son organisme avant la grossesse, ce qui prend à peu près 42 jours. Et maintenant, la nutrition de l'enfant va jusqu'à 2 ans, pour être sûr que l'enfant a bien bénéficié de l'amour psychologique de sa mère.
Même s'il y a des recommandations de l'OMS, minimum 6 mois d'allaitement maternel.
Oui, elle a l'allaitement maternel de minimum de 6 mois. Et après, elle doit assurer l'alimentation supplémentaire. Si elle n'est pas capable de faire cette alimentation supplémentaire parce qu'il y a une seconde grossesse qui est venue se greffer sur cette éducation, elle néglige le nouveau-né.
Donc et ça met non seulement en péril la santé maternelle, mais également la santé du nourrisson, professeur.
Bien sûr, bien sûr.
Docteur Gaston Aounou, est-ce que vous avez des chiffres précis sur l'utilisation des méthodes contraceptives, pilules, stérilets par exemple, aujourd'hui au Bénin?
Oui.
La méthode la plus utilisée dans notre pays demeure encore les injectables. Et en deuxième position, les implants, là où c'est disponible. Encore que les implants surclassent les injectables, là où on a les implants disponibles dans nos structures sanitaires.
Alors c'est une contraception de relativement longue durée, ces injectables ou ces implants. Maintenant, quelle proportion dans la population de femmes ou d'hommes utilisent des contraceptifs?
D'après l'enquête démographique de santé de 2011-2012, nous sommes passés à 7,9%. Mais il y a eu l'enquête mixte de 2014 qui nous a ramené à 12,5% pour les femmes en union. Donc il y a eu un bond quand même si on compare, mais on attend la collecte de l'enquête démographique et de santé de 2018. On attend les résultats pour voir là où nous en sommes.
Quoi qu'il en soit, quels premiers éléments vous pouvez nous donner pour expliquer pourquoi les couples au Bénin, les jeunes au Bénin ont si peu accès ou du moins recours à la contraception?
Il faut reconnaître d'abord que la population est très pronataliste. Hein. On dit dans notre pays que l'enfant, c'est une richesse. Le taux de mortalité infantile étant très élevé, les gens en faisaient beaucoup pour que survive le nombre qui leur suffirait pour subvenir à leurs besoins lorsqu'ils seront âgés. Mais il y a d'autres facteurs qui comptent. Il y a par exemple la disponibilité des produits contraceptifs au point de prestation de services. Il y a aussi le problème des besoins non satisfaits que nous avons très élevés aussi, puisque nous sommes autour de 33% de besoins non satisfaits en planification familiale.
Cécimé, on dit les femmes voudraient avoir recours à la contraception, mais la contraception, ce n'est pas uniquement l'affaire des femmes.
L'affaire des filles aussi, parce que la jeunesse est tout à fait concernée par cela. Et donc ça pourra permettre aux jeunes filles qui vont à l'école de pouvoir continuer normalement leurs études, parce qu'une fille qui tombe grosse, parce qu'elle ne sait pas comment empêcher que cela n'arrive pendant qu'elle est en train d'étudier, ça met tout de suite un frein à ses études. Donc forcément, avec Equipe Hop, on essaye d'aller vers la jeunesse pour les informer de comment est-ce qu'il faut prendre des dispositions pour pouvoir éviter que cela n'arrive et que cela devienne un frein à leur avenir.
Parce qu'avant d'avoir accès à la contraception, il faut déjà s'informer sur les différentes méthodes disponibles et avoir justement tous ces éléments en tête.
Tout à fait.
Alors avant de vous retrouver ici, on va partir à une trentaine de kilomètres, si vous le voulez bien, de Cotonou, hein, à Djohou, sur place. Il y a le centre Amis des Jeunes, qui est animé par l'association OSV Jordan. Sur place, il y a un baby-foot, des ordinateurs. Et vous allez l'entendre hein, beaucoup plus pour faire le lien justement avec la jeunesse, parler très concrètement planification familiale, avec même des démonstrations, vous allez l'entendre. Et pour nous guider, c'est Pulcheria Achadé, elle est directrice adjointe chargée des opérations. Reportage.
Nous allons commencer maintenant par le premier atelier. Là, nous avons deux ateliers, un atelier de couture et un atelier de coiffure. En fait, c'est quoi? Le centre multifonctionnel a plusieurs activités. En dehors de les activités avec les jeunes pour leur épanouissement, nous avons nos pères tutrices. Nous avons formé 300 pères, uniquement que des filles, des scolarisés et des non scolarisés.
Ok, voilà. Nous sommes dans l'atelier de couture. Avec les matériels de couture. Là, c'est la salle de coiffure. Nous avons le placard des produits liés à tout ce qui est tresse, coiffure. Il y a les mèches, il y a les produits. Mettre les bigoudis, se faire joli.
On peut passer directement ici. Nous sommes dans l'infirmerie du centre. Et voilà déjà l'infirmière là.
On m'appelle Madame Loco Estelle. Je suis infirmière diplômée d'État.
Quand ils arrivent les premières fois, est-ce qu'ils n'ont aucune connaissance sur la sexualité et la contraception? Ou est-ce que certains en ont déjà un petit peu parlé avec les parents ou les frères et sœurs?
La majorité ont des... Bon, en savent quelque chose. Mais c'est souvent avec les camarades. Souvent avec les parents, c'est presque un sujet tabou. Hein.
Et justement, quand ils en parlent avec leurs camarades, est-ce qu'ils vous rapportent des choses fausses, des idées fausses? Est-ce que vous les réorientez?
Oui,
vous les corrigez?
On leur pose des questions ouvertes qui vont leur permettre de dire un certain nombre de choses. Et puis, on piochons de ça pour leur donner des conseils. Ici, nous avons le matériel que nous utilisons. C'est les cartes de planification familiale. Ça permet de suivre celles qui sont sous des méthodes données. Quand elle doit venir au rendez-vous, quand on ne la voit pas, avec la carte, là, on peut aller la rechercher pour savoir ce qui se passe ou ce qui ne va pas. Ici, c'est une méthode de contraception de 5 ans. Ça, c'est l'implant, non? C'est une méthode de 3 ans.
Vous avez des implants ici? Est-ce que vous avez des tests de grossesse?
Oui, on a des tests de grossesse.
Et beaucoup de jeunes filles viennent vous demander justement pour voir si elles sont enceintes, oui. Faire ces tests,
oui. Oui.
Elles les font ici ou elles les font chez elles?
On le fait ça gratuitement ici.
Et vous avez aussi des préservatifs?
Oui, beaucoup même. On a des préservatifs féminins, on a des préservatifs masculins. Nous avons ceci qui a la forme de pénis. Un préservatif masculin.
Et quand vous faites ces gestes devant les jeunes, ils réagissent bien, ils partent pas en pouffement de rire, tout ça, ça non. Se passe bien parce qu'ils viennent ici pour s'informer.
Ça se passe bien. Je peux y aller?
Je vous en prie.
Je souffle dedans pour voir dans quel sens rouler. Donc c'est dans ce sens. Je pince le bout ici. Et ça va me permettre de garder le sperme après l'éjaculation. Si on oublie de pincer, peut-être au cours du coït, ça peut s'éclater. Et puis je pose sur le pénis comme ceci. Et je commence par dérouler comme ça. Et il faut le faire quand on est déjà prêt pour la pénétration. Et maintenant quand on finit, il faut avoir un papier mouchoir pour enlever. Pour ne pas se salir la main, quoi.
Cette démonstration, vous la faites aux garçons comme aux filles?
À tout le monde, même à des femmes qui sont dans le ménage et qui préfèrent le préservatif. C'est aussi une méthode de contraception.
Pilule, collier, maman, chadelle, injectable, tiu, pincée, déroulée.
Tchaki.
Alors, ce chant, hein, ce banc pour promouvoir la contraception, il est entonné par les infirmières et sages-femmes du centre de santé d'Azo-Lycée, j'espère que je l'ai bien dit. Beaucoup de moyens, hein, des efforts dans ce genre de structure pour rendre tout cela accessible. Il y a même un petit camion mobilette qui achemine jusqu'au plus près de la population, justement, ces différents contraceptifs. On l'a entendu, c'est une histoire de femme, c'est une histoire d'homme. Romaric Witona, justement, vous êtes l'illustration de cela, l'incarnation. Qu'est-ce qui pousse un jeune homme à devenir jeune ambassadeur pour la santé reproductive et la planification familiale?
Lorsque les problèmes, ça se pose dans notre entourage, lorsque nous avons notre sœur qui subitement abandonne les classes, lorsque nous avons nos sœurs qui, suite aux grossesses non désirées, suite à un avortement clandestin et provoqué, meurent, il y a quand même de quoi se lever.
Alors l'information, c'est capital. On va essayer d'apporter notre petite pierre à l'édifice tout de suite en donnant la parole aux auditeurs et auditrices de Priorité Santé à Cotonou. Justement, on va donner la parole à la première d'entre elles. Il s'agit de Chanceline.
Bonsoir. Sur le terrain, quand nous faisons les sensibilisations, il y a les jeunes qui nous disent que peut-être moi, j'ai une tante qui a utilisé une méthode de contraception et après, les médecins lui ont diagnostiqué un cancer du col de l'utérus. Il y a une autre fille qui va raconter son histoire qu'au cours d'un rapport sexuel, le préservatif s'est éclatée et elle est tombée enceinte. Donc, quand les jeunes nous racontent ces genres de problèmes, comment est-ce que nous, en tant qu'activistes, on répond à ces rumeurs pour ne pas laisser voir le côté mauvais de la chose? Merci.
Chanceline, merci beaucoup pour votre question. Merci. Je vais vous donner la parole, professeur Christiane Tchabou-Aguémon. Il y a vraiment un problème de préjugés sur la contraception. Ça, c'est bien réel.
Effectivement, Caroline. Si les méthodes contraceptives ne sont pas bien utilisées, ça cause des rumeurs. Ce qu'il faut dire, c'est d'abord à chacun sa méthode contraceptive parce qu'il y a des effets qu'on étudie avant de prescrire la méthode contraceptive. Mais non, concernant le cancer et les méthodes contraceptives, il n'y a pas de lien. Le seul moment où on craint un cancer dans l'utilisation des hormones, là, ce n'est plus dans la contraception, c'est lorsqu'on veut prendre en charge les femmes qui ont des problèmes de ménopause. À ce moment-là, quand c'est pris en charge sur une longue durée, là, on peut craindre un cancer. On le trouve surtout chez les femmes qui sont porteurs du human papillomavirus, c'est-à-dire de l'HPV. Et deux fois, c'est le rapport sexuel qui annonce le cancer du col qui était sous-jacent alors que ce n'est pas lié à la méthode contraceptive.
Docteur Gaston, nous, ce ne sont pas souvent des objets ou des traitements anodins. Il y a des principes actifs dans certains contraceptifs. Il y a besoin du conseil d'un professionnel de santé.
Effectivement, et nous, on dit dans notre programme que c'est la femme elle-même qui choisit la méthode qui lui convient. Mais nous devrons reconnaître que comme tout médicament, les méthodes contraceptives, surtout hormonales, ont des effets secondaires.
Cécile, vous voulez réagir?
Par rapport à la question, elle a parlé de préservatifs qui seront pendant, par exemple, l'acte sexuel. Et il y a les méthodes de contraception d'urgence, comme la pilule de lendemain, qui peuvent être utilisées.
Il y a une solution quand il y a ce genre d'accident.
Voilà, c'est juste ce que je voulais apporter.
Avec des centres de santé qui peuvent justement délivrer cette contraception d'urgence en cas de problème. On va donner la parole tout de suite à Tchakirou. Tchakirou, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Ma question, c'est vrai, il y a des rumeurs. Et nous avons constaté que c'est à cause de ces rumeurs qu'il y a certaines femmes qui ne veulent pas du tout adopter ces méthodes-là. Mais on ne peut pas, dans le même temps, refuser que ces effets secondaires n'agissent pas sur la santé de certaines femmes. Alors, moi, ma question, c'est de savoir s'il n'y a pas possibilité d'éliminer définitivement ces effets secondaires.
C'est un petit peu le rêve de tous les chercheurs, d'éliminer les effets secondaires. Docteur Gaston Aounou, finalement, les contraceptifs, ce sont des médicaments comme les autres.
Voilà. Exactement, Caroline. Là, si vous êtes ulcéreux, vous prenez de l'aspirine. Sachez que vous allez avoir de l'ulcère, vous allez pisser même du sang s'il le faut. Donc, les produits ont toujours des effets secondaires. Mais c'est que pour les produits contraceptifs, on connaît les effets secondaires, on sait comment les gérer. Et nous disons surtout aux clientes, comme on les appelle, si l'effet secondaire vous gêne, on peut retirer la méthode. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas voir cette cliente et dit que si tu utilises telle méthode, tu auras tel effet. C'est pas possible.
De la même manière, professeur Christiane Tchabouaguémon, si une femme n'arrive pas à avoir un bébé 6 mois après avoir retiré l'implant, ce n'est pas forcément à cause de l'implant.
C'est pas forcément à cause de l'implant. Il y a un problème de mécanisme qu'on appelle la pharmacocinésie. C'est juste une façon de dire que chaque personne a une sensibilité à un produit. Et c'est en fonction de la sensibilité qu'on développe les effets secondaires. Donc, on peut dire qu'après le retrait d'un implant nord, il y a certaines femmes qui, le mois immédiatement après, auraient déjà éliminé les molécules au niveau de l'organisme et pourront tomber enceinte dans les 2-3 mois. Et il y a d'autres chez qui il faut longtemps métaboliser, longtemps mettre du temps pour que le foie ait le temps d'éliminer toutes les hormones emmagasinées avant de pouvoir tomber enceinte. Donc, c'est surtout un problème de pharmacocinésie.
Docteur Gaston Aounou, j'ai une question. Merci infiniment pour votre question, Tchakirou. J'ai cette question sur la scène internationale. On a entendu le Bénin dans les différents documents que j'ai fouillés pour préparer cette émission. Partenariat de Ouagadougou, il y a eu un engagement pour qu'il y ait 20% de prévalence de contraception en 2018. On s'est raté, on est en 2018, c'est pas atteint. Il y a eu même chose, un engagement pour la gratuité des méthodes modernes de contraception pour les jeunes. C'était à Addis Abeba, là aussi, c'est pas fait. À quoi ça sert de prendre ce genre d'engagement en matière de contraception, finalement, pour ne pas tenir ses promesses?
Non, Caroline, on ne va pas dire. C'était des objectifs qu'on s'était fixés. Atteindre 20% en 2018, il est bien vrai, nous sommes en mars, mais on n'est pas encore en décembre.
Il va falloir mettre le paquet.
Oui, là. Et puis, il y a eu une évolution terrible. Je dois vous informer que le Bénin fait partie des 3 pays de la sous-région, des 9 pays du partenariat de Ouagadougou, qui ont pu atteindre les chiffres de femmes additionnelles qui s'étaient proposées d'atteindre entre 2016 et 2017. Donc, à côté de la Côte d'Ivoire et du Burkina, c'est seulement le Bénin, les 3 pays qui ont pu atteindre ces chiffres-là. Donc, cela veut dire que quelque chose est en train de changer. Parce qu'on a eu à faire beaucoup d'interventions pour pouvoir atteindre les résultats escomptés. Il est bien vrai, d'après les chiffres que nous a donné Track 20, c'est une structure technique de la structure mère qu'on appelle FP2020, nous serions autour de 17%.
Donc,
petit à petit, nous sommes en train de nous rapprocher de 20% que nous nous sommes promis pour 2018. Il est bien vrai que le résultat n'est pas totalement atteint, mais il y a eu un bon significatif.
On va faire une petite pause pour le journal. Vous restez tous avec nous autour de cette table et dans le public de l'Institut français de Cotonou. Donc, Romaric Ouitouna, docteur Gaston Aounou, professeur Christiane Tchabouaguémon et Cécile. On va se retrouver dans 3 minutes, juste après le point de l'actualité sur RFI.
Priorité santé. Caroline Paré.
On se retrouve pour cette seconde partie de Priorité Santé, une émission enregistrée au Bénin à l'Institut français de Cotonou, et c'est toujours en public. Et toujours en compagnie de nos invités pour parler de l'accès à la contraception, professeur Christiane Chabouaguémon, chef de service adjoint de la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukoumaga, en compagnie aussi de Cécimé, artiste, chanteuse, engagée pour les droits des femmes au sein de l'organisation Equipop, docteur Gaston Aounou, avec nous aussi, médecin de santé publique, chef du service planification familiale et santé des adolescents et jeunes au ministère béninois de la Santé, et puis Romaric Witona, jeune ambassadeur pour la santé reproductive et la planification familiale à Cotonou. Alors Romaric, est-ce que pour vous, Romaric Witona, aujourd'hui le Bénin se donne les moyens de ses ambitions ?
Honnêtement, il faut répondre oui. Alors, en ce qui concerne les engagements, il faut dire que là, c'était en novembre 2013 à Addis Abeba, lors de la troisième conférence internationale sur la planification familiale, que au nombre des huit engagements pris par l'État béninois, il était question de rendre gratuit l'accès aux méthodes modernes de contraception pour les adolescents et jeunes au Bénin. Où est-ce que nous en sommes aujourd'hui? Il faut dire que avec le forcing que nous avons fait, avec ces rencontres, il faut dire que aujourd'hui, le Bénin dispose d'une politique de gratuité. Dans cette politique de gratuité, il est dit que le chef de l'État doit prendre un décret pour institutionnaliser cette gratuité-là. Alors, c'est en fait là que nous sommes pour le niveau de plaidoyer pour que son Excellence Patrice Talon, nous allons saisir bien entendu votre micro. Nous avons eu l'occasion de le répéter il y a quelques moments. Il est quand même temps de pouvoir prendre ce décret-là pour institutionnaliser la gratuité des méthodes modernes de contraception pour les jeunes, pour que la jeunesse puisse mieux s'épanouir.
Docteur Aounou du ministère béninois de la Santé, est-ce que l'État a les moyens de rendre la contraception gratuite pour les jeunes aujourd'hui?
À l'heure d'aujourd'hui, je dirais oui. Mais lorsqu'on dit gratuité pour une intervention, sache que quelque part, quelqu'un paye. Et il faut toujours, lorsqu'on est dirigeant, avoir une vision prospective et voir dans le futur ce que cela sera. Puisque aujourd'hui, si on le peut, parce que là, les méthodes contraceptives sont disponibles, avec l'appui du gouvernement et des partenaires, nous en avons aujourd'hui en quantité voulue. Mais il se peut que demain, nous n'ayons pas la possibilité de subvenir à ce besoin-là. Donc, mais il faut vraiment penser au futur.
Justement, penser en futur, tout à l'heure, on a parlé des chiffres de la mortalité maternelle, de la mortalité infantile, liée justement à l'absence de contraception. Investir pour la contraception, c'est quand même investir aussi pour l'avenir, pour la santé de sa population.
Je suis entièrement du même avis que vous. La planification familiale, la contraception n'est pas seulement un moyen pour réduire la mortalité maternelle et infantile, mais c'est aussi un outil de développement. Et investir dans la planification, on dit souvent qu'un dollar investi dans la planification familiale rapporte au moins 2 dollars. Cela veut dire que si nos autorités avaient les moyens d'investir dans la planification familiale, dans la contraception, cela allait être bénéfique pour le pays.
Romaric Witona, vous aviez cet enthousiasme tout à l'heure de la jeunesse. Malgré tout, on entend parler aussi de certains blocages au niveau de la société, des blocages qu'on dirait traditionnels ou culturels. Vous arrivez justement à faire changer des mentalités sur le terrain? Comment vous faites?
Qu'est-ce que nous faisons? Nous allons en fait au contact des jeunes pour pouvoir leur donner l'information.
L'accès à l'information, on va justement redonner la parole à l'un de ces jeunes présents avec nous sur les bancs de l'Institut français. C'est Tchakirou qu'on retrouve parce qu'il avait une question tout à l'heure. Il avait encore une autre question à poser. On vous écoute tout de suite, Tchakirou.
D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité, au lieu de conseiller uniquement les méthodes modernes, de combiner ces méthodes traditionnelles aux méthodes modernes pour permettre à ces femmes qui sont dans les milieux ruraux, qui disent « moi je préfère être accrochée à ma culture », de comprendre qu'en réalité c'est pour leur bien. Est-ce que c'est uniquement les méthodes modernes qui sont efficaces? Est-ce qu'il n'y a pas dans les méthodes traditionnelles des méthodes qui sont efficaces?
On va essayer de donner des éléments de réponse. Cécimé, vous vouliez répondre.
Oui, moi, je voulais juste faire un apport. Je voudrais dire que dans le cadre de cette lutte, c'est pas seulement les éducateurs ou les pères éducateurs qu'il faut associer. Il faille associer les religions, les chefs religieux et les responsables de communautés dans toutes les régions, parce que c'est eux qui sont conservateurs de nos cultures, de nos traditions. C'est en eux que les populations croient. C'est en eux que les populations, c'est d'eux qu'ils veulent entendre ou qu'elles veulent entendre les vérités ou les choses à faire. Donc, il faudrait que, quelles que soient les méthodes modernes que nous avons aujourd'hui, que nous puissions penser à associer les chefs religieux et les responsables des communautés pour que, comme quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'on ne dise pas qu'il y a un responsable communautaire qui dit « ça vient pas dans ma région, ça vient pas dans ma communauté ». Sinon, on va faire des actions, on va mener des actions et ils passeront derrière pour dire que ça ne passe pas, il faut recourir aux anciennes méthodes. Donc, c'était l'apport que je voulais faire.
On va répondre à votre question aussi, Tchakirou, un petit instant. Docteur Gaston Aounou, vous vouliez réagir à ce sujet. Il y a eu une concertation des religieux au Bénin, justement, sur ces questions de contraception. Est-ce que les choses avancent ?
Les choses avancent si bien que lorsqu'on avait lancé un projet il y a quelques années qu'on appelle les religieux s'engagent, on s'attendait à sensibiliser les religieux. Non seulement cela a tellement pris que les religieux non seulement ont été sensibilisés, mais ils nous ont fait recruter des nouvelles acceptantes pour la planification familiale. En quelques mois, on a eu plus de 4000 femmes qui ont adopté les méthodes contraceptives. Là où certaines structures religieuses avaient des cliniques, ils envoyaient dans leur clinique. Là où il n'y en avait pas, ils envoyaient vers les centres de santé. C'est pour dire que les religieux aujourd'hui, ils sont totalement impliqués dans la santé, de la reproduction, la planification familiale, si étant qu'ils se sont mis ensemble pour créer une plateforme des leaders religieux intervenant dans la santé de la reproduction.
Docteur Aounou, est-ce qu'ils avancent dans le même sens ou est-ce qu'il y a malgré tout certaines croyances qui ont plus de blocage, plus de retenue par rapport à certaines méthodes que d'autres ? Je vous pose une question, mais je crois que j'ai un petit peu la réponse.
Je pense que vous avez la réponse, ouais. Caroline. Et je pense que l'Église catholique, il ne faut pas le cacher, et dans sa doctrine, ne fait pas la promotion des méthodes hormonales, mais autorise les méthodes, ce que nous appelons les méthodes naturelles. Donc, ils font même la promotion de ces méthodes-là. Et même parmi les autres confessions religieuses, il y a ceux qui sont pour les méthodes modernes et hormonales, mais il y a aussi toujours, on trouve toujours des gens qui sont contre l'utilisation des méthodes contraceptives. Mais je vous dis que l'Église catholique aussi fait partie de cette plateforme des leaders religieux qui interviennent dans le domaine de la santé, de la reproduction et la planification familiale.
Professeur Christiane Chabou-Aguémon, on parlait tout à l'heure justement avec la question de Tchakirou des méthodes, on va dire, traditionnelles. Cette méthode, ça existait d'ailleurs dans le reportage qu'on a vu tout à l'heure, ce qu'on appelle le collier avec les différents jours marqués par différentes couleurs selon le cycle menstruel. D'abord, est-ce que ça marche et est-ce que c'est appliqué aussi ? Est-ce que c'est une des méthodes qui sont conseillées dans certaines régions ?
Vous savez, on a deux types de méthodes traditionnelles. Il y a les méthodes traditionnelles où on essaie de se baser sur le cycle menstruel. Et puis après, on a des méthodes traditionnelles barrières, où on utilise certains éléments en son temps pour pouvoir empêcher ou rendre le vagin plus acide pour que le spermatozoïde ne puisse pas migrer au niveau du vagin. Concernant les méthodes naturelles, c'est-à-dire suivre le cycle menstruel ou alors utiliser le collier, il faut vraiment que la femme maîtrise son cycle menstruel. Si elle ne le maîtrise pas, c'est très difficile. Maintenant, pour le collier vous donne beaucoup de jours d'abstinence. Ce qui fait que la femme, de fois, elle a de la peine à respecter ce délai d'abstinence et c'est ça qui entraîne des échecs par rapport à ça.
Vous dites que la femme a du mal à respecter le délai d'abstinence,
oui,
l'homme aussi.
Mais bien sûr. Maintenant, il y a les méthodes traditionnelles barrières. Ces méthodes traditionnelles barrières ont tendance maintenant à être abandonnées parce que ce sont des méthodes qui détruisent la flore vaginale. Et en détruisant la flore vaginale, ça facilite les infections. Donc moi, ce que je veux demander à notre intervenant par rapport à sa question, c'est mieux d'essayer de s'imprégner des méthodes modernes et pouvoir avoir suffisamment d'arguments pour pouvoir justifier auprès des femmes.
Romaric Wittuna voulait réagir.
Oui, merci beaucoup. En fait, c'est concernant la question de la contribution des leaders religieux, il faut dire, oui, les leaders religieux sont engagés, mais il y a en fait toujours un bémol. Le bémol qu'il y a, c'est que les leaders religieux, il y a un jeune en fait qui a posé la question de savoir si entre-temps, il est prêt à pouvoir discuter avec son enfant de la sexualité, si tant est qu'il est, il dit que voilà, il est engagé pour aller sensibiliser la population sur la question. Alors, il a répondu quoi? Et ils sont plusieurs à le soutenir par la suite. Ils ont répondu en fait que oui, ils vont le faire, mais seulement avec des jeunes en union. La contraception n'est pas seulement pour les gens en union. L'OMS a suggéré qu'on parle désormais de contraception et non de planification familiale. Parce que quand on parle de planification familiale, on voit forcément une famille. Voilà.
Professeur Christiane Chabouaguémon, c'est ce que vous disiez tout à l'heure. La contraception adaptée aux différentes personnes et aux différentes configurations familiales.
Bien sûr. C'est pour ça que je dis, et je voudrais quand même parler aussi au relais communautaire. C'est pas seulement ils vont effectivement aller vers la population pour parler de ça, mais il faut forcément qu'ils se fassent accompagner d'une personne qualifiée par rapport à la contraception pour que ces relais communautaires puissent assurer les réponses correctes aux préoccupations de la population.
Cécile, mais depuis tout à l'heure, on parle de l'impact de la planification familiale, de la contraception sur la santé des femmes. On a parlé mortalité maternelle, mortalité infantile, mais il faut peut-être aussi parler tout simplement du bien-être des femmes, parce que derrière la contraception, il y a la sexualité. Ce n'est pas uniquement avoir des rapports sexuels, vouloir ou non avoir des enfants, ça on l'a bien compris. Il y a l'épanouissement familial, mais il y a aussi une question qui est aussi une question tout simplement de bien-être et de bien-être mental. C'est très important.
Oui, c'est tout à fait cela. Ça permet à la femme qui fait un enfant de pouvoir retrouver son état d'avant la grossesse, de pouvoir s'épanouir, reprendre ses acquis. Activité, si elle a un métier, une activité qu'elle exerce, qu'elle puisse y aller librement, la femme doit décider de ce qu'elle veut, du moment où elle veut prendre du plaisir et du moment où elle décide de vaquer à une occupation, de faire un enfant. Mais ça ne doit pas venir de par la force ou parce que simplement elle a fait un enfant et qu'elle est obligée de tout abandonner pour pouvoir suivre simplement l'évolution de cet enfant-là.
Eh ben, on va donner la parole à un autre auditeur de Priorité Santé. Charlotte, on vous retrouve tout de suite. On vous écoute.
Caroline, bonjour. Tout à l'heure, on a parlé des préjugés qui minent les méthodes contraceptives. On est au Bénin, dans un pays laïque, on ne pourrait pas parler de préjugés de méthodes contraceptives sans parler des religions. J'étais dans une congrégation la dernière fois quand le pionnier de cette congrégation dictait la loi de l'abstinence ou rien aux jeunes. Alors qu'on sait de nos jours que ce n'est pas seulement les femmes en couple, les couples qui ont besoin de méthodes contraceptives. Alors ma question est celle-ci, comment les jeunes peuvent arriver à concilier la religion et les méthodes contraceptives?
Professeur Christiane Chabouaguémon, qu'est-ce que vous avez à répondre à tout ça?
Ce que je voudrais dire d'abord, c'est il faut un grand discernement parce que effectivement les religieux nous donnent la ligne de conduite. Et si on reste dans la logique des religieux, c'est-à-dire il n'y a pas de rapport sexuel avant le mariage, à ce moment-là, ce langage passe. Mais on constate maintenant que la plupart des jeunes sont déjà sexuellement actifs à partir de 15 ans. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Le langage doit être un peu prudent. On dit abstinence parce que je n'ai pas encore eu de rapports sexuels. Mais si j'ai eu des rapports sexuels, ce n'est plus en termes d'abstinence qu'on parlera. On va beaucoup plus parler en termes d'utilisation des méthodes contraceptives. Donc, il faut vraiment faire un bon discernement pour pouvoir concilier la religion et la contraception.
Merci. On va redonner la parole tout de suite à un auditeur. On remercie Charlotte, en tout cas, pour son intervention. Merci beaucoup, Charlotte. Cette personne dans la salle, c'est Dieudonné. Bonjour.
Bonjour.
On écoute votre question.
La fois dernière, c'est au cours d'une activité de sensibilisation à Weto. C'est un village d'Aboumé Kalavi où j'ai rencontré une dame. Je parlais, on développait le thème de la violence quand même. Mais comme à chaque cible, une méthode de sensibilisation, j'ai essayé d'aborder cette idée-là. La dame m'a dit que c'est elle-même. Elle a adopté une méthode de contraception et depuis ce jour-là, elle n'a pas eu d'enfant. Elle fait tout. Bon, j'ai demandé d'abord, est-ce que la méthode que vous avez adoptée, comment est-ce que vous avez procédé? un centre quoi, une clinique qui est compétente en la matière. Elle me dit qu'elle a payé ça et elle est allée dans un centre de santé. Moi, j'ai dit normalement ça ne se fait pas. Donc, en tant que père éducateur, quand même, j'ai essayé de la mener dans la clinique de l'ABPF. Et aujourd'hui, je peux vous convaincre qu'elle s'est retrouvée. Donc, c'est pour vous dire que quand on nous pose ce genre de questions,
n'avez pas d'éléments de réponse.
On n'a pas d'éléments de réponse. Donc, en tant qu'acteur, comment est-ce que quel élément de réponse apporter à cette femme-là pour les convaincre sur l'importance des méthodes contraceptives?
Justement, merci. C'est la confusion, hein. Planification familiale, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas de famille, docteur Gaston Aounou.
Oui, la définition officielle que nous avons retenue depuis la conférence internationale sur la population et le développement qui a eu lieu à Caire en Égypte en 1994 au Bénin est que la planification familiale est l'ensemble des moyens et des mesures mise à la disposition de l'individu, du couple et de la communauté pour permettre à chacun d'avoir le nombre d'enfants voulu. Ça, c'est le volet contraception. Pour lutter contre les infertilités et les stérilités du couple et pour lutter contre les IST, VIH, SIDA. Si vous avez bien compris, donc la planification familiale a trois composantes. Composante contraception, la composante lutte contre l'infertilité et la stérilité, la composante lutte et prévention et lutte contre le VIH-SIDA. Si on le prend, donc ça concerne tout le monde.
Avec toujours d'autres questions hein, dans le public ici à l'Institut français, on va donner la parole à Phébé.
Oui, bonjour. Moi, j'ai constaté que plusieurs femmes, après avoir injecté l'une des méthodes, font entrer beaucoup de maladies, alors qu'il y en a certaines qui font la même chose, mais qui n'ont rien. Alors, ma question est de savoir si on a des femmes qui ne supportent aucune méthode contraceptive ou d'autres qui ne peuvent supporter aucune méthode.
Est-ce qu'il y a des femmes, professeur Christiane Chaboua-Guémon, qui ne supportent aucune méthode de contraception?
Non, on ne pourra pas dire qu'ils ne supportent aucune méthode contraceptive parce que dans les méthodes contraceptives, hormis les méthodes hormonales, on a aussi les préservatifs. Et donc, on trouve toujours ce qui convient à la femme en fonction de la pathologie qu'elle présente, en fonction de la sensibilité à certains produits qu'elle aurait. Et en fonction de ça, on pourra bien orienter la méthode contraceptive. Il y a toujours une méthode contraceptive adaptée à chaque femme. Il y a toujours.
On va prendre une dernière question, cette toute dernière question, c'est celle de Romain, qui est donc avec nous à l'Institut français de Cotonou. Bonjour Romain.
Bonjour Caroline. Il m'était arrivé lors d'une discussion entre amis, un collègue est venu se renseigner pendant que la discussion était très chaude à propos du sujet, de savoir quelle méthode contraceptive devrait-il adopter pour sa femme. Et dans la foulée, il y a un qui a déjà adopté une méthode et du coup a dit à ce dernier que en fait, cette méthode, une fois qu'il va l'adopter, va peut-être conduire sa femme à devenir infertile plus tard. Systématiquement, il s'est retiré, il n'a même plus suivi la discussion avec nous. Et quand je prends ce constat, ajouté à un facteur qui est celui où le Bénin, ou en tout cas au Bénin, on est dans une société fortement patriarcale. Est-ce que les intervenants tout à l'heure ont parlé des acteurs religieux? Mais au-delà des acteurs religieux, le ménage, c'est plus proche de la femme. Est-ce qu'il ne faille pas orienter, disons, cette sensibilisation davantage à l'endroit des hommes pour en arriver à les convaincre plutôt que de rester au niveau un peu plus haut quand on parle des acteurs religieux?
Eh bien, merci. Vous nous donnez matière pour la conclusion. On va commencer pour une fois par les hommes et puis après ce sera honneur aux dames. Docteur Gaston Aounou, est-ce que les hommes béninois sont suffisamment impliqués dans cette question, ce débat sur la contraception?
Bon, suffisamment, je dirais tout de suite non, mais nous faisons l'effort d'orienter plusieurs interventions vers les hommes. Lorsqu'on parle des religieux, la plupart des religieux, c'est d'abord des hommes. Hein. C'est pourquoi ils sont touchés par là. Mais en dehors de ça, nous avons des actions ciblées vers les élus locaux, les maires, les chefs d'arrondissement. Je vais revenir sur un point essentiel que j'ai perçu dans l'intervention de Romain, bien sûr. Il disait que l'homme a choisi une méthode pour la femme. C'est là la grosse erreur. lorsque le consigning, c'est-à-dire le conseil n'a pas été donné à la femme en présence de l'homme ou bien à la femme seule, elle va trouver tous les moyens pour briser l'utilisation de cette méthode. Dans ces cas-là, l'utilisation, la continuité de l'utilisation de la méthode est vraiment compromise. Donc, c'est la femme elle-même qui doit choisir la méthode qui lui convient.
Romaric Quitonnet, j'ai demandé de conclure, d'être un petit peu plus bref, justement sur ce rôle des hommes dans l'accès et dans l'utilisation de la contraception.
Oui, en fait, il faut dire qu'il y a des initiatives dans les pays voisins, comme au Mali, où nous avons l'école des maris. Et ça, par exemple, il y a que dans le plan d'action national budgétier pour la planification familiale, cette stratégie-là est prévue pour être adoptée. Un dernier commentaire rapidement, ça c'est un message de plaidoyer que nous voudrons bien entendu saisir votre canal pour lancer au chef de l'État, Patrice Talon. Excellence, Monsieur le Président, c'est que nous, jeunes du Bénin, pour l'épanouissement de la jeunesse, bien entendu, il faut que vous preniez le décret pour institutionnaliser la gratuité pour les méthodes de contraception pour les jeunes au Bénin. Cela y va de leur épanouissement. Je vous remercie.
Le message est passé. On va vous entendre à votre tour, Christiane Chabou à Guémont. Tout à l'heure, on parlait justement du rôle des hommes dans la contraception. Ces hommes qui vont décider pour leur femme de prendre la pilule, d'utiliser telle ou telle méthode, ça vous a fait réagir?
Oui, évidemment. Ça m'a fait réagir parce que quand l'homme choisit la méthode contraceptive pour la femme n'est pas compliante. Elle ne suit rien parce qu'elle n'a pas participé à ce choix-là. C'est pour ça qu'il faut forcément que la femme y soit. Mais je suis d'accord pour l'école des pères. Ça a pu prendre au Niger où ils ont pu accéder à plusieurs femmes. Donc, hormis l'école des pères, je pense qu'il y a l'introduction dans les modules de formation dans les écoles de l'aspect éducation de la reproduction. Il faut que ce module-là apparaisse dans le programme des écoles. Mais non, pour les jeunes qui sont peut-être en formation pratique ou bien qui ne font rien, il va falloir que les relais communautaires puissent de temps en temps s'approcher de ces jeunes dans les lieux publics pour pouvoir parler suffisamment des méthodes contraceptives. Et je pense que ça pourra beaucoup aller.
Cécime, votre conclusion?
Moi, je dois dire que je suis complètement d'accord avec tout ce que les intervenants ont dit. Et je dois ajouter que pour réussir ce pari de la contraception, il faudrait augmenter nos plaidoyers dans ce sens-là. Il faudrait qu'on puisse dire non aux mariages forcés qui ne sont pas conseillés, enfin, quand même, pour pouvoir réduire le taux de grossesse non désiré, précoce, lutter contre les avortements clandestins et augmenter la communication et le plaidoyer dans le sens de l'éducation au niveau des écoles. Donc, aller vers les jeunes. Les jeunes passent le plus clair partie de leur temps à l'école et c'est là qu'il faut vraiment retenir leur attention, discuter avec eux et comme je tiens à le dire, intéresser les leaders dans les pays. Les leaders, que ce soit dans le milieu de l'art ou dans le milieu dans tout autre domaine, les impliquer dedans parce que c'est par rapport à eux que les jeunes sont attentionnés, attentifs. Ils veulent les écouter. Donc, les impliquer dans toute cette campagne-là pour que les plaidoyers puissent vraiment être efficaces et efficients.
Merci beaucoup. Merci. Notre émission consacrée à l'accès à la contraception touche à sa fin. Priorité santé enregistrée ici à l'Institut français de Cotonou avec le concours du Fonds Muskoka pour la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Merci à vous quatre, à nos invités, à vous tous bien sûr dans cette salle, vous quatre professeurs, Christiane Chabou-Guémont, chef de service adjointe de la clinique universitaire de gynécologie et d'obstétrique du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukoumaga, ici à Cotonou, docteur Gaston Aounou, médecin de santé publique, chef du service de planification familiale et santé des adolescents et jeunes au ministère de la Santé, à vous, Romaric Quitouna, jeune ambassadeur pour la santé reproductive et la planification familiale à Cotonou au Bénin. Merci à vous, Cécime, pour votre participation à cette émission diffusée donc le 8 mars sur la Radio du Monde. Je vous invite à rejoindre le micro qui est juste situé derrière vous à quelques mètres. On l'a dit, hein, 8 mars, journée internationale des femmes. Femmes, c'est justement le titre de l'une de vos chansons. Et pour le public réuni à Cotonou, pour les auditeurs de Priorité Santé sur RFI, vous nous faites le plaisir d'interpréter cette chanson. Ce sera à vous dès que j'aurai remercié aussi toute l'équipe qui a préparé votre émission. Ophélie Lassène, Bertrand Éclair à Cotonou, Assez Tous à Maquet, Didier Bleu à Paris. À demain, À vous, Cécimé, dans Priorité Santé, accompagné par Jimmy Bella au pad et Malik à la guitare. À vous.
Une femme jusqu'à la mort, frapper une femme et la violer, exciser la fille et la blesser. Stop aux violences sur la femme. Oh non, yon nous maïs soumettis non basio vidona, yon nous maïa papa non dosé fokona. Yon nous maïa poé non babé non acha. Pa non doze kokana e.